Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez votre programme en français sur la radio SBS. Nous sommes le dimanche 23 novembre 2025 et comme tous les dimanches, on commence avec le personnage qui a marqué la semaine.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Personnage de la semaine, Boualem Sansal. C'est une voix libre, il n'a jamais plié. Écrivain dérangeant, critique du pouvoir et de l'islamisme, il paye depuis plusieurs années le prix de sa parole, de son premier roman 1999 à sa récente libération après un an de prison. Son parcours raconte le combat d'un homme pour dire ce que d'autres taisent. Cette semaine, on retrace son histoire avec Iléana Guillechon.
Cette semaine, nous vous racontons l'histoire de Boualem Sansal, un homme d'une grande douceur mais au goût prononcé pour la provocation, qui incarne l'opposition à l'islamisme et défend depuis des décennies la liberté d'expression en Algérie. Sa parole libre reste une force, même dans un espace où elle est constamment menacée. Voici son parcours. Né en 1949 à Teignet El Had, près de Tissemsilt, rien ne le prédestinait à devenir écrivain. Pourtant, c'est bien la littérature qui fera sa renommée, d'abord en Algérie, puis au-delà des frontières. En 1967, il entre à l'école polytechnique d'Alger. Passionné de mathématiques, il devient d'abord ingénieur, consultant et haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie. Sa trajectoire personnelle se déroule dans un contexte historique complexe. Après l'indépendance, l'Algérie connaît des périodes de stabilité, mais aussi de fortes tensions. Entre 1991 et 2002, la décennie noire éclate après l'annulation du second tour des législatives, stoppant le FIS, parti islamiste en passe de l'emporter. Certains de ses partisans prennent les armes contre l'armée et la guerre civile fait entre 150 000 et 200 000 morts et de nombreux disparus.
Madame, monsieur, bonsoir. L'Algérie de nouveau frappée par un terrible carnage la nuit dernière dans un quartier de...
Pour apaiser le pays, le président Bouteflika lance une politique de concorde nationale, accordant notamment la grâce à certains islamistes. À presque 50 ans, Boualem Sansal décide de ne plus se taire. Épuisé et impuissant face à l'effondrement de son pays, il prend la plume et signe ses œuvres de son propre nom. Il plonge dans les plaies de l'Algérie et en payera le prix. Il publie son premier livre, Le Serment des Barbares, en 1999 chez Gallimard. Un roman engagé, parfois brutal, mais toujours lucide. Un récit amer de la décennie noire de la guerre civile algérienne. Au fil des années, il publie de nombreux ouvrages. Ses livres dénoncent la situation politique, sociale et économique de l'Algérie, tout en explorant des thèmes universels, la mémoire, la justice et l'identité. Récompensé par plusieurs prix, dont celui du premier roman, Sansal entre en littérature et ne la quittera plus. Il ne dévie jamais de sa ligne. Malgré les risques, Boualem Sansal refuse de quitter Alger, affirmant que ses écrits doivent naître dans son pays et non depuis la France. Rapidement, il devient une voix critique et dérangeante pour les autorités, dénonçant dans ses livres les dérives politiques, sociales et économiques, mais aussi la censure, les menaces et les pressions. Ses prises de position lui valent des ennuis. En 2003, il est limogé de son poste de haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie pour ses critiques envers le pouvoir.
En Algérie, on a censuré mes premiers livres parce que c'était des attaques frontales contre le pouvoir que je nommais par leur nom. M. Bouteflika, M. Boumediene, etc. Et l'islamisme, c'est pareil. Et donc, évidemment, je me suis fait énormément d'ennemis.
En 2012, Boualem Sansal remporte le prix du roman arabe pour son roman « Rue Darwin ». Mais après un voyage en Israël, le Conseil des ambassadeurs arabes décide finalement, contre l'avis du jury, de ne pas lui remettre la récompense pour traîtrise. Un pataquès qui ne grandit pas la littérature, dira l'écrivain libanais Vénus Kourigata, le prix lui sera remis quelques mois plus tard. Cette décision provoque encore en lui beaucoup de colère.
Ah oui, complètement, oui, oui. Moi, c'est ces ambassadeurs qui s'ingèrent comme ça dans une relation entre jury et écrivains est absolument insupportable. Ce diktat imposé au jury d'avoir à annuler un prix qu'ils avaient accordé, c'est absolument insupportable. Et cette révolte est venue à point nommé pour y mettre fin.
Ces récits, parfois proches de paraboles ou de fables politiques, illustrent ces combats contre l'intolérance et les dérives du pouvoir. C'est le cas de 2084, La fin du monde, dystopie à la manière d'Orwell, qui lui vaut le grand prix du roman de l'Académie française en 2015, son chef-d'œuvre. Dans ce contexte, il explique lui-même ce qu'il entend par radicalisme religieux ou islamisme.
L'islamisme, c'est quelque chose de très intelligent, de très puissant, de très organisé, avec des organisations supranationales super importantes, la Ligue mondiale islamiste, l'organisation de la conférence islamique.
Les prix s'enchaînent. En 2021, le prix méditerranéen pour Abraham ou la 5e Alliance, une parabole sur la puissance et les faiblesses de la pensée religieuse. En 2023, il reçoit le prix Constantinople avec la journaliste et écrivaine Delphine Minoui. Et sa dernière œuvre sort chez Gallimard en janvier 2024, « Vivre le compte à rebours ». Malade d'un cancer, Boualem Sansal continue d'écrire, de publier et de dénoncer. Et au mois de novembre de la même année, ses propos tenus à un média français d'extrême droite au sujet d'un territoire disputé lui valent une accusation d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie, déclenchant un débat sur la liberté d'expression. Quelques semaines plus tôt, les relations entre la France et l'Algérie s'étaient déjà tendues, notamment après la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le 27 mars, un tribunal algérien condamnait Boualem Sansal à 5 ans de prison ferme. Emprisonné depuis un an et au cœur d'une grave crise diplomatique entre Alger et Paris, l'auteur a finalement été gracié et libéré par le régime algérien le 12 novembre 2025, en partie grâce à l'intervention de l'Allemagne. Une victoire de la diplomatie. Un heureux dénouement, à l'image d'une vie passée à écrire contre la peur, contre le silence et contre l'autorité, et à défendre cette conviction, la sienne, répétée depuis plus de 10 ans, qu'il vaut parfois mieux être silencieux à Alger que causeur à Paris.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
C'était la chanson La Quête, interprétée par Aurel San. Aurel San qui vient de sortir un nouvel album, d'ailleurs, il s'appelle La Fuite en Avant. On marque une très courte pause, messieurs, dames. On se retrouve dans un instant pour un nouvel épisode d'Europa Voice. Christophe Mallet et Nathanaël Bloch font un point sur la situation en Ukraine. A tout de suite.
Deuxième partie d'Europa Voice, toujours Christophe Mallet, toujours avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, on va parler maintenant, eh bien, en gros, du deal de la semaine. Ça a été annoncé il y a quelques jours. La France vendra une centaine de rafales à l'Ukraine. Alors, c'est pas tout de suite, mais la question se pose sur quelle rafale, parce qu'il y a quand même pas mal de questions sur le moment où l'Ukraine aura besoin de ces rafales et la livraison et la date de livraison signée avec le super VRP français, le président Emmanuel Macron.
Alors, c'est effectivement une rencontre assez historique. C'est pas la première entre le président français et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais cette semaine, le chef d'État français a réaffirmé donc son engagement envers l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est que Si on se rappelle des nombreux épisodes d'Europa Voice qu'on a consacrés à l'Ukraine du point de vue français, Christophe, mais aussi du point de vue européen, on avait à cœur de dire que l'aide de la France et de l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine n'était pas qu'une aide militaire. C'était une aide aussi en termes de moyens humains, une aide humanitaire, une aide financière, etc. Et donc là, on a l'impression qu'il y a quand même la réalité de la guerre et la réalité du terrain qui refait surface et que les efforts diplomatiques, pas seulement français, hein, mais du reste de l'Europe, ont l'air de s'incliner vers maintenant, il va falloir fournir quand même des armes, des avions à l'Ukraine et prendre en compte cette question notamment des drones pour aider l'Ukraine à se défendre et aussi à atteindre ses objectifs stratégiques. Donc, j'allais dire, c'est dans la continuation, Christophe, de l'engagement du président français vis-à-vis de l'Ukraine, mais c'est aussi un petit changement léger, mais tout de même de cap pour le président français.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, bon, la guerre en Ukraine, elle dure depuis plus de 1300 jours. Mais là, la France vend 100 rafales à l'Ukraine, c'est une lettre d'accord d'achat donc de ces 100 rafales, sur 10 ans. Donc, est-ce qu'on pense à un après-guerre en Ukraine? Est-ce qu'on pense à une défense d'après-guerre? Ou est-ce qu'on se protège pour une guerre qui pourrait durer presque 10 ans?
On se projette surtout dans un continent où la Russie teste, j'allais dire, les limites, pas seulement en Ukraine, mais aussi aux frontières de l'Union européenne. Et on peut revenir sur les nombreuses incursions de drones ou d'objets russes au sein de territoires européens, dans les pays baltes, même en Belgique, etc.
Et on parle de nombreux aéroports ont été bloqués avec des drones, etc.
Voilà. Ça, et là, on n'est plus sur le front de l'Est. Hein. Là, moi, je vous parle de la Belgique. Je vous parle de l'Europe historique. Je vous parle en fait de l'Allemagne, de l'ensemble du continent européen. Donc, on est aussi quand même dans ce cadre-là, ce qui a quand même beaucoup changé en un an, parce que ce genre de choses-là, on en parlait pas ou très peu il y a un an. Et surtout ces épisodes-là, Christophe, se sont démultiplié ces derniers mois. Donc on est dans ce contexte-là et on est dans le contexte aussi, encore une fois, d'une Europe qui discute le retour potentiel de la guerre en son sein, du retour de la conscription militaire. Alors on a l'exemple le plus frappant qui est l'exemple allemand, hein, puisque l'Allemagne n'avait pas le droit a été désarmée, n'avait pas le droit d'avoir une armée de métier après la Seconde Guerre mondiale. C'est en train de changer ça aussi. Donc en fait, c'est simplement la traduction sur le terrain de ce à quoi on se prépare en Europe pour les prochaines années. Ça ne veut pas dire que c'est une guerre qui va durer 10 ans, mais en tout cas, ça veut dire que la menace russe s'inscrit maintenant non plus seulement en Ukraine et sur le court terme, mais sur l'ensemble du continent européen et sur du plus long terme, Christophe.
Et avant de parler de la suite donc de cette guerre, etc., il y a un vrai défi logistique, par contre, pour la France, si on est un petit peu plus terre à terre, c'est que 100 rafales dans les 10 prochaines années, c'est quand même un sacré défi pour les équipes de Dassault pour construire ça, parce que la question se pose même de est-ce que la France devra donner ses propres rafales pour en avoir des nouveaux. Tout n'est pas forcément bien clair là-dessus non plus.
Non, c'est une lettre d'intention. D'abord, alors même s'il y a une signature, mais surtout c'est l'idée aussi de, j'allais dire, mettre l'accent sur les efforts industriels que la France doit fournir. C'est se recentrer aussi. Il y a beaucoup d'articles qui parlent de l'ère post-licorne en ce moment, c'est-à-dire qu'on est arrivé aussi un peu à la fin d'industries plus légères, start-up, etc. Et le défi pour la France de se repositionner sur des industries lourdes, de se repositionner sur du savoir-faire français, et évidemment, sans faire la promotion, mais entre les Safran, Thales et autres fleurons industriels et de défense français, il y a aussi une carte plus que militaire, Christophe, il y a une carte aussi économique à jouer pour le président français, et notamment dans le cadre de sa fin de mandat.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que des rafales, la France a mis énormément de temps à en vendre. Puis à partir du moment où, je crois que la première vente, c'était François Hollande en Inde, hein, si je m'abuse, il y a un bon moment. Mais depuis, le Rafale est assez présent quand même dans les nouveaux achats d'avions de chasse, d'avions d'attaque et d'avions de défense.
Oui, et puis n'oubliez pas aussi, Christophe, que si c'est pas un Rafale, c'est un avion américain. Si c'est pas un Rafale et que c'est un avion américain, c'est-à-dire que les technologies qui vont avec les data, le savoir-faire, c'est aussi le savoir-faire, les data, les technologies américaines. Donc, au-delà de la pièce lourde d'artillerie, il y a aussi derrière, j'allais dire, toutes les questions de souveraineté industrielle qui sont posées. Et donc c'est aussi pour ça que c'est important que la France sache se positionner dans ce monde multipolaire et soit capable de fournir ses rafales. Vous avez mentionné l'Inde, mais aussi à l'Ukraine et sur d'autres marchés. Parce qu'encore une fois, la nature a la horreur du vide. Donc, de toute façon, si ce ne sont pas les rafales, c'est une, et j'utilise les guillemets, c'est une ingérence industrielle autre. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et sur le continent européen, la France a raison, d'une certaine façon, de promouvoir le Made in France, en tout cas le Made in Europe, pour garder aussi ces aspects de souveraineté économique, de souveraineté technologique et de souveraineté industrielle.
Absolument. Voilà, ça conclut notre Europa Voice numéro 171. Merci, Nathanaël.
Merci, Christophe.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir.
Clara Luciani sur les ondes de Radio SBS avec son titre « Nu ». On vous propose à présent la deuxième partie du voyage intime dans l'univers de Claude Lelouch, raconté à travers un documentaire qui révèle l'homme derrière le mythe. Rencontre avec Élise Baudouin, deuxième partie.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Si on parle de la future génération ou de la génération courante, est-ce qu'il y a encore des réalisateurs qui peuvent presque lui arriver à la cheville? Alors c'est très dur de comparer, mais est-ce qu'un Cédric Clapiche est en chemin d'avoir une carrière et une longévité à la Claude Lelouch? Est-ce qu'on sent que c'est encore possible à une ère où aujourd'hui c'est les plateformes de streaming, on consomme le cinéma complètement différemment?
Bah écoutez, alors... ça dépend sur quoi on compare. Chacun a son style. Clapiche, il a un cinéma qui est bien à lui, qui est aussi un cinéma très générationnel, je trouve. Clapiche, ouais, il sait faire des films qui croquent leur époque. Après, je me permettrai pas de vraiment me lancer dans des comparaisons parce que d'abord, je ne suis pas une spécialiste du cinéma. C'était mon co-auteur Stéphane Boutsock qui était le spécialiste de cinéma dans notre tandem. Moi, je sais fabriquer des histoires et des documentaires et c'était ma contribution. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que il est évident que la façon que Claude Lelouch a de produire des films, elle est rare. Claude Lelouch, c'est un cinéaste qui a réussi à être le premier Français à avoir deux Oscars pour Un homme et une femme. Il a eu l'Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario original. C'était une première. Donc, c'est quelqu'un qui, très tôt dans sa carrière, a eu du succès. Ça lui a apporté de l'argent et ça lui a permis petit à petit de pouvoir produire ses films lui-même. Alors après, de toute façon, il est capable de tout pour pouvoir fabriquer un film. Il peut vendre une maison, c'est vraiment quelqu'un qui, il est dévoré par sa passion du cinéma. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on produit des films en réalité. C'est beaucoup. Vous voyez bien que les productions de films, elles sont beaucoup plus plurielles. Il y a des fonds qui viennent de partout. Du coup, est-ce qu'on peut être aussi libre que lui? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on n'est plus du tout dans la même époque ni dans les mêmes objectifs, je pense. Après, s'agissant de Clapiche, c'est sûr que il y a une unité dans l'œuvre de Clapiche qu'on pourrait comparer peut-être à l'unité qu'il y a dans celle de Lelouch. Après, vous voyez, je pense à un film, à un réalisateur français qui n'a rien à voir avec Claude Lelouch, mais Quentin Dupieux. Il a une façon de produire qui est très artisanale. Il fait tout lui-même. Claude Lelouch lui-même filme. Hein, c'est lui qui filmait, qui était le caméraman de tous ses films. C'est quelque chose qui s'est raréfié. Donc, peut-être qu'il y a un peu de Lelouch dans Quentin Dupieux, mais qui est beaucoup plus loufoque, pour le coup.
Pour le coup, oui, c'est sûr. Lelouch, ouais. Est-ce qu'il y a un film qui, pour vous, est votre film préféré? C'est dur de trouver de faire des préférences. Ouais. C'est comme des enfants, mais est-ce que La Belle Histoire, Tout ça pour ça, dans cette époque des années 90, 2000, début 2000, de ce cinéma de Lelouch qui était quand même grand public, mais avec un grand succès, mais des grandes histoires, des grosses histoires.
Oui, des films parfois très longs. Oui,
très très longs. Donc est-ce que ça se détache, par exemple, pour quelqu'un comme vous qui est proche de Claude Lelouch, de l'homme en tout cas?
Bah, moi, je suis née en 81 et le premier film marquant, et je crois que c'est mon préféré hein, de toute façon, parce que j'ai revu tous ces films pour faire ce documentaire, mon préféré, c'est Itinéraire d'un enfant gâté.
Ouais, extraordinaire. Qui est sorti Jean-Paul 80... Belmondo, Roger Anconina, film légendaire.
Exactement. C'est un, pour moi, c'est un des films, c'est un film culte. L'histoire est géniale. C'est un film d'avant, qui est à la fois humain, qui est à la fois un film d'aventure. En même temps, il y a énormément d'humour. Il y a des, moi, c'est un film, c'est un film qui fait rêver parce que, il y a une espèce de liberté qui se dégage de ce personnage de Sam Lyon, qui en a marre de sa vie de businessman et qui décide de disparaître. Alors en plus, ce qui est très, une fois qu'on connaît bien Claude, ce qui est très touchant, c'est de se rendre compte que à l'époque où il écrit ce film, il a lui-même envie de se faire un peu oublier. Il a l'impression de faire toujours les mêmes films, il a l'impression de se répéter. Il nous a même dit à cette époque, j'ai l'impression de devenir un escroc parce que je ne me renouvelle pas, je raconte tout le temps la même histoire, je tire tout le temps sur les mêmes ficelles, et en plus, mes films marchent de moins en moins à cette époque. Donc, lui, dans sa carrière, c'est un film qui correspond à une forme de renaissance, c'est un succès, c'est un énorme succès. Et puis, bon, voilà, c'est plus de ma génération, mais si vous parlez à quelqu'un d'un peu plus âgé, il va vous parler de L'Aventure, c'est l'aventure, par exemple.
Incroyable, Lino Ventura, et Jacques Brel.
Exactement, avec des scènes cultes, et puis c'est un film extrêmement drôle. D'autres vous diront que le chef-d'œuvre, ça reste Un homme et une femme. Il y en a un peu pour tous les goûts. Voilà, mais c'est vrai que, ouais, alors après, dans les beaucoup plus récents, le dernier qu'il a fait finalement est un film très lelouchien, où en plus, il fait plein de clins d'œil à sa propre cinéma, à sa propre filmographie dedans. Donc ceux qui aiment l'œuvre de Lelouch en auront pour leur argent, je dirais.
Moi, j'ai beaucoup aimé Il y a des jours et des lunes, mais ça, c'est un choix personnel.
Ah oui, ça c'est assez...
très beau film.
c'est vrai qu'il était, il était assez génial celui-là.
Juste pour conclure cet entretien, c'est comment on ressort de la création d'un documentaire comme ça, parce que on parlait au tout début de cet entretien, il a fallu s'y mettre et mettre la feuille blanche et écrire tout ça. Une fois qu'on a tout fini, que la projection elle est vue, validée même par Claude Lelouch, comment vous êtes senti là aujourd'hui? Vous êtes en train de nous parler en Australie, vous avez fait une certaine promo par rapport à ce film. Comment on se réinvente derrière une œuvre comme ça?
Écoutez, moi, je dois dire que je suis ressortie de ce film en ayant la sensation d'être allée au bout d'une démarche. Il faut quand même se rendre compte qu'explorer un fonds d'archives aussi colossal, parce que c'est 80, il a 88 ans, il avait à l'époque de la production de ce film 86 ans. J'ai quand même plongé dans un fond d'archives qui est colossal. Ça crée une sensation assez particulière parce que vous finissez par tellement, vous avez déroché tellement d'interviews, vous avez vu tellement de photos, vous pouvez pas dire que vous connaissez intimement l'homme, parce que moi je pense que ce serait prétentieux de le dire. Je ne suis pas une intime de Claude Lelouch, c'était mon sujet de recherche. En revanche, vous connaissez par cœur le discours qu'il porte sur lui-même et sur son travail. Vous pouvez presque finir ces phrases parce que vraiment, quand ça, ce niveau de oui, j'ai tout vu, tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu raconter, je l'ai entendu. Et donc, il fallait fabriquer un récit qui soit fidèle, avec cette petite problématique s'agissant de Claude Lelouch, c'est que c'est un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a un goût immodéré pour le storytelling. Et moi, j'avais pas envie qu'il nous raconte toutes les histoires qu'il a racontées déjà des milliards de fois tout au long de sa vie. Et là, l'avantage d'avoir tout écouté, c'est que du coup, ça nous a permis avec Stéphane de l'emmener ailleurs, de l'emmener aussi dans des endroits qui sont moins confortables pour lui. Dans le film, on lui fait raconter des aspects de sa vie qu'il raconte avec gourmandise, sa méthode de travail assez folle avec les acteurs, cette façon qu'il a de les rendre de plus en plus spontanés, tout ce qui concerne sa façon de filmer, ses choix. Les endroits plus délicats, c'est sa vie privée, c'est sa relation avec ses enfants, sa relation avec les femmes de sa vie. Et il s'est prêté au jeu avec beaucoup de sincérité, en acceptant comme ça de suspendre sa pudeur. Pour moi, c'était un défi. de l'amener à se raconter en tombant un peu le masque, en acceptant de ne, comme je le dis tout à l'heure, de pas être celui qui va maîtriser comment exactement on raconte l'histoire, de se laisser faire. Voilà, c'est ça que c'était ça le défi, c'est d'arriver à ce qu'il se laisse faire et qu'il prenne du plaisir à ça. Et je vais vous dire, quand ce film, il a été projeté à la Cinémathèque à Paris, il y avait énormément de monde, il y avait 300 personnes, dont la famille et les enfants de Claude Lelouch. Moi, c'est un peu de leur regard que j'appréhendais comment ils allaient recevoir les parties les plus intimes du récit. Et ils sont venus me voir, notamment le fils aîné de Claude Lelouch à la fin de la représentation. Sa femme aussi est venue me voir en me disant « Mais c'est fou, vous avez réussi à débusquer l'homme derrière le cinéaste. » J'ai été très touchée par les mots qu'ils ont eus à cet égard. Et j'ai eu la sensation, du coup, d'avoir accédé à une forme de vérité. Comment dire ? Je ne sais pas si on peut dire le mot vérité. En tout cas, j'ai eu l'impression qu'on avait un regard pertinent sur la trajectoire de cet homme qui nous a laissé le raconter avec beaucoup de générosité. Parce que moi, finalement, ce qui m'a le plus bouleversée dans sa trajectoire, en fait, au-delà de son cinéma, c'est vraiment sa trajectoire que j'ai trouvée folle. Et il y a quand même un moment qui est déterminant dans la vie de Claude Lelouch, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Claude Lelouch, il est né en 1937, il a 5 ans pendant la guerre. Et c'est un moment qui est absolument fondateur, à la fois pour le cinéaste qu'il va devenir, mais aussi pour l'homme, tout simplement, parce qu'il se retrouve à 5 ans à Paris, en zone occupée, juste avec sa mère. Son père est resté en Algérie. Il se retrouve, sa mère et lui, traqués par la Gestapo. Et c'est une époque où, à la fois, il vit dans une peur quotidienne, mais aussi, c'est un moment où il va rencontrer le cinéma. Sa mère, en fait, a peur des rafles dans les écoles. Donc, le temps qu'elle est à Paris, dans la journée, pour pouvoir faire un certain nombre de démarches, elle le pose, elle le met dans des salles de cinéma, elle le cache dans les salles obscures. Une salle par jour, une salle différente par jour. Elle donne un pourboire à l'ouvreuse. Et donc, Claude Lelouch passe à 5-6 ans, ses journées, à voir 3 ou 4 fois le même film. Et lui, il dit, c'est fou parce qu'à l'extérieur, je sais qu'il y a la menace, mais à l'intérieur, ben, je me sens en sécurité. Et surtout, je passe mes journées avec des gens formidables parce que les gens qu'il y a dans les films, ils sont mieux que nous. C'est toujours les gentils qui gagnent à la fin. Et donc, c'est un moment clé dans sa biographie. Il dit même qu'il allait, à la pause, il allait derrière l'écran parce qu'il croyait qu'il allait pouvoir rencontrer les acteurs. C'est absolument adorable.
C'est mignon, c'est mignon.
Oui, c'est très mignon. Et alors, ça, c'est l'aspect, on va dire, le côté un peu le destin. Mais il y a quand même aussi le fait qu'à cette époque, pour qu'il ne se fourvoie pas devant des officiers nazis, son entourage l'amène à essayer de tenir des raisonnements antisémites. Il nous explique ça dans le film. On lui dit que les juifs, c'est les méchants, que c'est pas bien, parce qu'on veut qu'il soit crédible et qu'il puisse être sauvé si jamais il était interpellé par des officiers nazis. Lui, il explique que il se retrouve donc dans une confusion totale parce qu'il sait très bien qu'il est juif. Donc, commence à ce moment-là, en tout cas moi c'est comme ça que je l'analyse, ce truc de la réalité, la fiction, la vérité, le mensonge, tout se mélange. Et Claude Lelouch, c'est quand même quelqu'un, quand on voit le goût qu'il a pour la fiction par la suite, c'est quand même quelqu'un qui a été plusieurs fois à cette époque sauvé par des mensonges, notamment à l'école. C'est d'ailleurs, il en a fait d'ailleurs une scène de l'un de ses films dans Les uns les autres, scène qu'il fait jouer à son propre fils. Claude Lelouch, ça c'était quand il était dans le sud de la France, il est dans une école, caché dans une école catholique, des officiers allemands arrivent et demandent à ce que tous les petits garçons baissent leurs pantalons pour voir qui est juif et qui ne l'est pas, et il est sauvé par sa maîtresse qui dit « Ah non mais lui, c'est parce qu'il faisait pipi de travers, il a été opéré, il connaît la prière hein. » Et elle lui fait réciter la prière qu'elle lui avait appris quelques jours auparavant seulement. Claude Lelouch, aujourd'hui, il a 88 ans, il la connaît encore, la prière catholique. Moi, je pense que c'est un élément fondateur dans son cinéma parce que d'abord, la Seconde Guerre mondiale est extrêmement présente dans ses films. Même dans des films contemporains d'aujourd'hui, il va réussir à caser un personnage qui a un aïeul, qui a vécu la guerre, ou il va caser un flashback. Il est complètement obsédé par cette période, traumatisé aussi. Je pense. Il nous a même expliqué qu'il n'avait jamais été capable d'aller au festival de Berlin. C'est trop
D'accord.
difficile pour lui.
Je ne savais pas du tout ça, c'est incroyable comme histoire. Et j'ai une autre question, tant qu'on y est. Patrick Devers, est-ce que c'est un acteur qui l'a énormément marqué? Parce qu'on sait que Patrick Devers est mort pendant que Claude Lelouch faisait des essais avec lui pour un film sur Marcel Cerdan. Est-ce que vous en avez parlé avec lui et il est la dernière personne à avoir été au restaurant avec lui? Et si on connaît l'histoire, Patrick Devers est parti du déjeuner pour faire quelque chose et au final il a été suicidé. Est-ce que c'est quelque chose qui l'a marqué ou pas?
Ça l'a énormément marqué. Ça l'a énormément marqué. D'ailleurs, lorsqu'on fouillait toutes ces boîtes d'archives dans la maison de production de Claude avec Stéphane, on est tombé sur des centaines de diapositives qui correspondent aux toutes dernières photos qui ont été prises de Patrick Devers ce jour-là. En fait, le matin même, ils étaient au Bois de Boulogne avec la comédienne Evelyne Bouix qui devait jouer le rôle d'Edith Piaf et Patrick Devers. Ils faisaient des essais photos, tous les deux, photos prises par un photographe et par Claude Lelouch lui-même. Et donc, on a retrouvé ces diapos qui sont bouleversantes parce qu'on voit Patrick Devers souriant, montrant les muscles, en train de commencer à trouver comment incarner le boxeur Marcel Cerdan. Effectivement, après ses essais, il déjeune. Si je me souviens bien, Claude m'a dit qu'il a reçu un coup de fil au restaurant. Il est rentré chez lui.
On sait d'ailleurs qui était le coup de fil, si on a écouté le documentaire de sa fille.
Exactement, tout à fait.
Et je vais pas dévoiler qui c'est, mais on sait qui a passé le coup de fil. Et du coup, on a suivi le drame.
Exactement. Et ce qui est enfin Claude Lelouch, il est alors c'est un choc qui est total parce que il nous dit mais le matin même j'avais un homme heureux en face de moi qui était ravi d'incarner Marcel Cerdan qui me disait on percevait chez lui une fragilité qui était d'ailleurs dit-il follement cinématographique. Il percevait ce côté écorché de Patrick Devers, mais il disait mais à aucun moment, c'est un choc total, à aucun moment j'ai pu penser qu'à cette époque il allait mal et que la journée allait se terminer comme ça. C'est un choc et en plus ça a été un peu un cas de conscience pour Claude parce que est-ce qu'il poursuit ou pas ce film sur Edith Piaf et Marcel Cerdan? Est-ce qu'il fait Edith et Marcel, sachant qu'il faut remplacer le comédien? C'était vraiment très compliqué. Il a eu envie de tout arrêter. Et puis ensuite, il nous explique qu'il y avait tellement de gens qui avaient déjà tellement travaillé sur le projet. Et il a eu cette folle idée de faire jouer le rôle de Marcel Cerdan par son propre fils, Marcel Cerdan.
Marcel Cerdan, voilà, exactement.
Voilà. Exactement. Mais oui, ça reste une blessure assez forte hein, dans son parcours de cinéaste.
Absolument. C'était un vrai plaisir de parler avec vous, Élise Baudin. Ça donne vraiment envie de voir le film. Il est présent au Festival du film juif. On mettra toutes les dates sur notre site internet et sur notre podcast. Merci d'avoir papoté avec nous aujourd'hui.
Merci à vous et bonne journée.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie là. Symphonie des éclairs.
Zao Tsagazan, évidemment, cette voix si reconnaissable sur les ondes de Radio SBS avec la chanson « La symphonie des éclairs ». On vous propose la deuxième partie de cette archive qui date de 1996. Archive avec Tchéky Cario, l'acteur français qui s'est éteint il y a 3 semaines en Bretagne. Eh bien, Tchéky Cario était en Australie en 1996. Il était venu nous parler de sa carrière. Deuxième et dernière partie de cette rencontre, c'est maintenant.
Cher auditeur, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Je parle à Jackie Cario. L'industrie australienne était très, très, très vivace jusque pratiquement dans les années 20. Il y a eu un engouement terrible pour le cinéma dès le début, et un peu comme ce qui se passe en Europe. Je crois que finalement, après cette période de 60 ans, ils sont revenus plus à une sensibilité européenne du cinéma, une originalité d'inspiration.
Moi, ouais, j'étais très surpris par leur amour pour la France.
En dépit des essais.
Oui, non, mais c'est vrai. Dans la communauté artistique, je veux dire, d'ici en tout cas du cinéma, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est un problème politique et qu'il ne s'agit pas des gens eux-mêmes, et ils savent qu'en France il y a une réaction contre ça aussi. Ce qui m'a désolé, c'est qu'il y a comme toujours et partout, il y a toujours isolément des gens qui réagissent avec une violence extrême et qui utilisent comme bouc émissaire des minorités pour exprimer leur agression. Et donc quand ils ont fait sauter ces restaurants à Melbourne ou à Perth, l'ambassade, ça m'a désolé un petit peu, quoi. Mais malgré tout, je sens que la majorité a compris, quoi.
La France probablement représente un modèle pour les réalisateurs indépendants.
Oui, absolument. Ils connaissent très très bien le cinéma français et ils sont fiers pour les Français. De cette ténacité à protéger, disons, notre cinéma, quoi. C'est un exemple pour eux, ils s'en servent d'exemple. Et ça donne de l'espoir pour ce qu'ils vont faire encore, quoi.
Justement, vous avez eu l'expérience de contact avec plusieurs cultures, plusieurs nationalités, plusieurs industries. Est-ce que vous pensez que l'exemple français va être suivi, va faire exemple?
Oui. Ah oui, je crois que à l'extérieur, tout le monde a été heureux de voir qu'on défendait la culture française, surtout quand il y avait les problèmes du GATT, les accords du GATT, et de voir qu'on protégeait les quotas, qu'on avait envie, parce que c'est une industrie quand même importante en France, hein. Le cinéma français, c'est, je veux dire, le public français, c'est le meilleur du monde, on le sait. Donc je pense que c'est un exemple, la France. Mais et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que malgré quelquefois certains films, gros films, je crois que les techniciens français, les équipes gardent quelque chose d'artisanal et de vraiment passionné.
Vous avez fait les théâtres, vous avez fait du cinéma, vous continuez à en faire. Vous avez travaillé dans pratiquement tous les continents. Comment envisagez-vous l'avenir en tant qu'artiste?
Moi, ce que j'ai fait dernièrement, c'est que j'ai cherché à développer beaucoup des rapports avec des jeunes cinéastes, parce que comme je viens du théâtre, j'aime travailler sur les formes. Et donc il y a une nouvelle génération qui essaye de sortir du réalisme, qui a une culture de bande dessinée, une culture rock, une culture vidéoclip, une culture de science-fiction. Alors ça donne des cinéastes qui font des nouvelles images, qui ont une nouvelle manière d'éclairer, d'aborder, l'humanité. Alors c'est avec cela que j'essaye de développer des relations de travail pour les prochaines années.
Une chose d'ailleurs, vous parlez de vidéoclips et d'images, est-ce qu'il n'y a pas le risque avec la jeunesse telle qu'elle est éduquée aujourd'hui, qu'ils aient perdu le sens de l'histoire qui venait avant eux?
Oui, c'est vrai que il y a cette sensation, comme un besoin de couper les racines. Même pas un besoin, ça se fait presque naturellement. Mais oui, j'ai l'impression que c'est un phénomène de civilisation qui est lié à l'urbanisation, qui est lié
aux images.
Ouais, aux images de plus en plus virtuelles, donc déracinées, et puis tendues vers l'espace aussi. C'est comme un décollement. Je pense que ça inspire beaucoup d'images, quoi. L'espace, se projeter sur les autres planètes, sortir de l'atmosphère, ça crée des imaginaires déracinés. Ouais.
Est-ce que c'est pas aussi une réaction contre les différents cataclysmes qui ont secoué ce siècle et on nous bombarde d'images d'horreur tout le temps. Mais le siècle a commencé très mal. Aujourd'hui, justement, c'est le 11 novembre. Est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de réaction de rejet complet de ce que représentaient les valeurs humanistes qui finalement ont failli et une concentration extrême dans le présent?
Oui. Oui, il y a peut-être une sorte de il y a eu un, aussi, ça entraîne une forme de cynisme quelquefois aussi. Un humour un peu acide pour se protéger. Je veux dire, c'est vrai, toutes ces images d'horreur qu'on voit constamment à la télévision, ces corps déchiquetés, ces visages ensanglantés.
En général, à l'heure du dîner.
Oui, quand on mange, oui. D'ailleurs, on peut devenir facilement végétarien quand on voit ça. C'est ce qui m'arrive d'ailleurs. Ouais.
Votre vision de l'avenir? Pas simplement en tant qu'artiste, en tant qu'homme. Quand on voit la situation politique telle qu'elle est aujourd'hui, les Balkans par exemple, les mouvements de population, les massacres.
C'est étrange. J'ai envie de faire une famille. J'ai envie qu'elle soit heureuse. J'ai envie d'être dans une maison. J'ai envie de créer un environnement où on... proche, où on vit bien.
Réaction ?
Oui, c'est, je sais pas, c'est, j'ai envie de morale, de principe. Je veux continuer à rester ouvert et à aller partout, mais je pense que c'est bien de protéger les cultures. Il faut savoir se mélanger, mais il faut savoir de temps en temps retrouver sa culture. Je veux dire, l'ouverture c'est intéressant, mais bon, moi j'aime ouvrir ma maison, puis de temps en temps j'aime... Je me comporte comme ça quand je suis ailleurs. Je veux pas être envahissant. Et puis, si je sens que quelqu'un a envie d'être seul, je me retire. Donc, je veux pouvoir être seul aussi si j'en ai besoin. Donc, ça veut dire... je dis ça par rapport au phénomène de migration, d'échange, de tour de Babel. C'est drôle parce qu'on dit souvent qu'on est dans une forme de Moyen-Âge, mais c'est aussi un truc, un mélange qui peut être trop... qui peut annuler... Et c'est étrange parce que ça peut être contradictoire avec ce que moi je pense profondément, mais en même temps, tout d'un coup, je me dis, bon, bah, il faut être réaliste. Pour ça que je trouve que la gauche a eu des difficultés en France pendant toutes ces années, mais en même temps, elle a été réaliste, elle s'est ouverte à la réalité de gouverner.
Et la droite ?
Et la droite s'est adaptée. Je veux dire, il y a eu c'est étonnant de voir comment des gens de droite... tout d'un coup peuvent faire des discours de gauche.
On était en train de parler des mouvances et justement des courants qui se retrouvaient peut-être par réalisme politique. Machiavel aurait quelque chose à dire là-dessus. Mais aussi par la force, les dynamiques qui automatiquement entrent en jeu dans la communauté.
Je pense que 68 aussi a été ça a été réel. Ça a vraiment influencé aussi. Ah oui, ça a influencé les comportements... la famille, etc. Mais bon, on parlait d'exploser la famille à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'exploser. Il faut garder les familles. Il faut y croire aux familles.
À une période, justement, où les familles sont éclatées.
Comment?
À une période où les familles sont éclatées. Oui. Donc finalement, on est en train de reprendre, de revenir aux valeurs traditionnelles. On s'est trompé, donc?
Non, mais c'est juste une façon d'être un peu plus réaliste, disons. Il faut pas trahir les rêves qu'on a eus. Il faut les continuer, mais il faut être un peu plus réaliste. Dans le sens où je pense qu'il faut protéger sa culture, il faut garder les différences, il faut rester ouvert, mais il faut pas non plus
se diluer.
Ouais, se diluer, voilà.
Je crois qu'on partage les mêmes craintes. Un dernier message peut-être à nos auditeurs et auditrices pour aller voir The Small Man.
John Hillcoat, c'est un grand cinéaste. Nick Cave, c'est un musicien formidable. Il est en train de faire une musique extrêmement soulful, pleine d'âme, et en même temps très, très attractive, très entêtante, enfin émouvante. J'ai vu Ghost of the Civil Dead, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, c'est un film prenant. Ouais. Mais quand même, c'est un grand cinéaste. C'est un cinéaste, il a, je veux dire, chaque image est une surprise. La lumière du film est magnifique, les situations sont fortes.
Est-ce que les gens vont se reconnaître dans ce film?
Oui. Bon, c'est des figures, on pourrait dire, c'est des archétypes. Moi, je vois ce personnage comme un archétype. Je veux dire, bon, l'amour doit être plus fort que... L'amour devrait aider à mieux se comprendre. Et là, donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'erreur quand on rencontre les gens. Il ne faut pas projeter sur eux des choses. Il faut les écouter, être curieux. Quand on aime quelqu'un, il faut être ouvert. Et lui, il reste coincé.
Donc une leçon? Un miroir déformant?
Ouais, déformant, ouais. Pas mal déformant.
Déprimant le film ou plutôt non. Au contraire édifiant?
Ah non, pas déprimant du tout. Non. J'ai du mal à en parler là, je veux dire.
Proche.
Ouais, c'est un peu proche, ouais.
Donc on se retéléphone, disons, dans 6 mois. Jackie Cario, merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
C'est la fin de cette émission. Messieurs, dames, merci beaucoup de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi. Même fréquence, même heure. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un très beau dimanche après-midi. Au revoir, messieurs, dames.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.